Les mauvaises relations entre l'architecte et les différents corps de métier sont 100% la faute de l'architecte. Comment est-ce qu'on fait pour trouver son premier job? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'agence? Il faut que ce soit très facile de comprendre ce que vous avez fait, qui vous êtes et quelles sont vos compétences. Dans une petite agence, vous aurez beaucoup plus de responsabilités si on est habité par l'art de faire des beaux bâtiments. Les promoteurs se sont tout de suite figés, ils ont vu le projet, ils pensaient que c'était fini. Vous savez où vous voulez aller, même si vous le savez pas, hein. Ça fait maintenant près de 2 ans et demi que je travaille en agence d'architecture et j'en ai vu des choses. Alors dans ce nouvel épisode de Parlons d'architecture, je vais tout vous expliquer en détail. On verra comment trouver son premier emploi, comment se passent les entretiens en agence d'architecture, la différence entre le fait de travailler dans une petite agence et une grande agence, la différence entre un projet local, un projet de logement ou encore un projet international de type musée, comment se passe la relation avec les autres métiers, et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer quelle est la compétence selon moi la plus importante pour un architecte aujourd'hui. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Anels, je suis diplômé d'État en architecture depuis juillet 2023 et ça fait maintenant, comme je l'ai dit, 2 ans et demi que je travaille en agence d'architecture. J'ai eu l'occasion de faire énormément de stages dans plein d'agences différentes, que ce soit au Maroc chez Abdoulahlou Architect ou en stage chantier chez la TGCC, en stage chez My Group Architecture. Aussi en France, j'ai travaillé chez Stéphane Nobo Architect, MFA Architect, Plagiaria Architect et actuellement chez Jacob et McFarlane Architecture. Et si vous voulez, j'ai pu voir la différence entre des grosses agences, des agences de taille moyenne et des agences à taille beaucoup plus humaine. Et donc sans plus attendre, on va passer au sujet de cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit, comment est-ce qu'on fait pour trouver son premier job? Parce que quand on sort d'école d'archi, on se dit que la tâche, elle paraît extrêmement ardue, surtout si on n'a pas de relations, si on n'a pas de connexion, si on ne connaît personne. Alors comment on fait pour trouver son premier emploi? Déjà, le truc le plus important, c'est d'avoir le plus d'expérience possible. Alors, je sais que c'est contradictoire dit comme ça, mais pendant vos études et si vous êtes toujours étudiant, assurez-vous de faire le maximum de stages possible. Et si vous arrivez à avoir un stage dans une agence qui a un grand nom, disons par exemple, vous arrivez à aller chez Jean Nouvel, c'est génial, c'est un tremplin qui est non négligeable, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une expérience professionnelle pratique. C'est-à-dire que si vos stages, ça se résume à aller chercher le café ou à dessiner des chiottes pendant 45 minutes, là, c'est pas forcément super intéressant. Il faut que dans vos stages, vous ayez vu plein de choses, que vous ayez dessiné des plans d'exécution, que vous ayez aidé à monter un permis de construire. En tout cas, que vous ayez compris comment fonctionne une agence d'architecture. En tout cas, moi, ça a été le cas. Dans toutes les agences sur lesquelles j'ai travaillé, c'est des agences qui ont à cœur de faire, c'est des agences qui ont à cœur d'avoir des stagiaires. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là juste pour décorer. Ils veulent vraiment vous apprendre des choses et vous transmettre des choses. Et si vous êtes intimidé par le fait d'aller travailler en agence pour la première fois, dites-vous que ça fait partie du métier de vouloir transmettre ce qu'on a appris. Donc allez-y avec le plus d'entrain possible et sachez que vous avez toutes les compétences requises pour pouvoir travailler en agence. Alors, pour trouver son premier emploi, outre les stages, déjà, il faut faire un CV. Et dans votre CV, le plus important, c'est de mettre vos expériences professionnelles et vos expériences pratiques. Je suis désolé de vous le dire, mais on n'en a rien à faire de vos expériences personnelles. C'est-à-dire que si vous avez fait du théâtre ou que vous êtes membre d'une association ou un truc comme ça, vous pouvez le mettre, mais à la toute fin du CV. Le plus important, c'est vos études et ce que vous avez fait professionnellement parlant. Alors, c'est sûr que ce premier stage peut être difficile à avoir, mais en général, si votre école a un portail électronique, ils postent de temps en temps des annonces pour des agences qui cherchent des stagiaires. Donc, n'hésitez pas à regarder là-dessus et aussi n'hésitez pas à parler aux années qui sont supérieures à vous, c'est-à-dire si vous êtes en L3, parlez aux M1, M2 et autres, qui vont sûrement vous donner des contacts. Si vous êtes pote avec des gens qui sont dans des années supérieures à la vôtre, c'est le moment. Ils vont vous donner tous les tuyaux. Et donc, votre CV, c'est important qu'il soit bref et très clair. Il ne faut pas qu'il soit rempli. Il ne faut pas que vous racontiez votre vie dedans. Il faut que ce soit très facile de comprendre ce que vous avez fait, qui vous êtes et quelles sont vos compétences. Donc, n'hésitez pas à parler des logiciels que vous connaissez, de ce que vous avez fait spécifiquement en agence et aussi des langues que vous parlez. Parce que si vous visez des agences internationales, savoir que vous parlez d'autres langues que l'anglais et le français peut être super, super important. Ouais, même l'arabe. Moi, c'est ce qui m'a permis de décrocher mon travail chez Jacob et McFarlane. Et autre le CV, il y a la pièce maîtresse de tout architecte, à savoir le portfolio. Et le portfolio, eh bien, encore une fois, le conseil, c'est qu'il doit être le plus simple et le plus clair possible. Je sais que vous avez fait beaucoup de travail, je sais que vous avez beaucoup de travaux que vous aimeriez montrer, mais il faut vous dire qu'une agence d'architecture, elle reçoit entre 20 et 50 candidatures, voire plus. Donc, le plus bref et le plus simple et le plus clair sera votre portfolio, le mieux c'est. Et non, ce que vous devez mettre dans votre portfolio, eh bien, ça dépend de votre expérience. Si vous avez travaillé en agence, n'hésitez pas à mettre des photos des travaux que vous avez réalisés. Si vous avez fait des plans d'exécution en agence, mettez-les. Si vous avez fait des axonométries, si vous avez fait des 3D, ou si vous avez fait des relevés de chantier, mettez des photos de vous en train de travailler en chantier. Ou peut-être des photos que vous avez prises en chantier. En tout cas, une page pour dire « voilà ce que j'ai fait, voilà quel était mon travail ». Dites exactement ce que vous avez fait et n'enjolivez pas les choses, parce que ça, on le verra tout de suite. Et concernant vos projets d'étudiants, moi je vous conseille en fait de garder maximum 3 projets, voire 2 projets, c'est l'idéal. Et dans ces projets-là, c'est là que vous allez montrer vos talents graphiques. Alors, talent de conception aussi, mais ce n'est pas vraiment le sujet dans un portfolio. Vos talents graphiques, c'est ce qui prime. Et quand je dis talent graphique, il faut que vous montrez, en fait, vos super belles coupes perspectives que vous avez faites en projet, montrez-les. Vos axonométries, montrez-les. Si vous êtes très fort en perspective, montrez-les. Si vous avez une patte graphique, si vous savez dessiner, montrez vos dessins. Et surtout, en particulier, vos carnets d'architecture, si vous avez des dessins de réflexion qui sont intéressants, qui sont beaux, qui montrent que vous savez réfléchir à la main, ça, c'est super important. En gros, le portfolio, il est là pour montrer vos compétences, pour montrer qu'est-ce que donnent vos compétences. Et c'est ça qu'il faut garder en tête lorsque vous postulez pour votre premier job d'architecte. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'agence ? Parce que souvent, on se dit « ouais, j'aimerais trop aller dans cette agence. Si je vais dans cette agence, ma carrière est assurée. Je vais apprendre tellement de choses. Je vais apprendre… » Ok, c'est très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu vas apporter à l'agence chez qui tu postules ? Et ouais, c'est pas une question facile à se poser, mais c'est une question qui est fondamentale de se poser. Parce que, avant tout et pour tout, une agence d'architecture, on ne la fait pas parce que c'est l'art de on est habité par l'art de faire des beaux bâtiments. Enfin, c'est un peu ce qu'on fait derrière, mais c'est avant tout une entreprise. Et une entreprise, elle doit être rentable. Elle doit être rentable pas pour faire des sous-sous, mais elle doit être rentable pour pouvoir assurer une certaine longévité et pouvoir vous payer, vous. Parce que le contrat entre un employé et une entreprise, eh ben, c'est que vous donnez votre temps. Vous donnez votre temps en échange d'une certaine somme qui vous est payée chaque mois et qui reflète votre compétence. Et donc, dans votre portfolio et dans votre lettre de motivation, c'est là où c'est vraiment important, il faut que vous disiez exactement quelle valeur ajoutée vous allez apporter à l'agence. Ça peut être votre entrain, votre curiosité, votre culture architecturale, votre capacité graphique, votre affinité avec les logiciels d'architecture, le fait que vous êtes super efficace, hyper organisé. Et surtout, soyez bref. La lettre de motivation, il n'y a pas besoin qu'elle fasse plus de un paragraphe, une page maximum. Mais bon, quand vous trouvez votre job, gardez la simplicité, clarté et qu'est-ce que je vais apporter à l'agence. Gardez ça en tête. Et pour trouver un job, aussi, il faut voir des annonces. Il ne faut pas vous dire que vous allez postuler, faire des candidatures spontanées chez toutes les agences d'architecture. Donnez la priorité d'abord aux agences qui cherchent activement des employés. Vous pouvez voir ça en les suivant sur Instagram. Vous pouvez le voir aussi sur le site de l'Ordre des architectes si vous êtes en France. Au Maroc, j'imagine que ça doit être la même chose. Je n'ai pas encore postulé là-dedans. Et surtout, le bouche à oreille est la clé. Si vous avez des amis qui travaillent déjà, posez-leur des questions. Si vous connaissez les architectes, n'hésitez pas en fait à envoyer aussi des candidatures spontanées. Une fois que vous avez trouvé les agences qui cherchent, c'est le moment de bourriner des agences les candidatures spontanées. Et c'est là que le choix de l'agence dans laquelle vous travaillez est super important. Si vous arrivez à avoir des échos là de vos agences, c'est hyper important parce que vous ne savez pas dans quel bourbier vous allez vous retrouver. Est-ce que, quelle est la culture de la charrette dans cette agence? Quelle est la culture d'entreprise? Est-ce que les horaires sont fixes ou est-ce que c'est plutôt on arrive et on travaille jusqu'à pas d'heure? C'est important d'essayer de contacter les employés déjà là. Et pour les contacter, normalement sur tous les sites internet d'agence, vous avez le nom et le prénom de leurs employés. Et d'ici là, vous pouvez essayer de les retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook, où j'en passe. En général, ils seront super heureux de vous... Bah, et même moi, quand vous m'envoyez, pour ceux qui ont déjà essayé, vous m'avez envoyé des messages sur Instagram et j'essaie de vous répondre du mieux que je peux. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages de nulle part, tout en étant bref, en respectant le temps des autres et en étant cordial. Ça, c'est super important, le respect du temps de l'autre. Et donc, une fois que vous avez envoyé ces candidatures, eh bien, vous avez ce qu'on appelle l'entretien. Et l'entretien... si vous avez déjà un entretien, eh bien, c'est le moment, c'est... On va dire que vous avez 60% de votre candidature qui est dans la poche. Les 40% restants se décident dans l'entretien. C'est le moment où les agences vont évaluer votre caractère, vont évaluer votre présence d'esprit, vont voir si vous allez vous accorder avec l'agence ou pas. Et pour moi, j'ai une philosophie assez particulière qui m'a vraiment réussi jusque-là. C'est que je vais préparer les entretiens, mais pas à l'excès. C'est-à-dire que je vais prendre 30 minutes pour préparer mon entretien. Et quand je dis préparer mon entretien, ça va être aller sur le site internet, regarder les actualités de l'agence. Est-ce qu'ils ont gagné un concours récemment? Est-ce qu'ils sont en train de construire un grand projet? Regarder l'histoire de l'agence, leur philosophie. Généralement, ils ont toujours une page sur internet du « à propos ». Et là, c'est le moment où vous allez déceler des mots-clés. C'est super important parce qu'ils vont vous permettre de comprendre ce qu'essaye de faire l'agence. Une fois les mots-clés pris, je vous conseille aussi de choisir 2 à 3 projets de l'agence qui vous inspirent réellement. Et là, essayez pas d'être super intellectuel et d'inventer des mots et des phrases et des axes d'analyse. N'essayez pas de jeter de la poudre de perlimpinpin. Soyez véritablement honnête. Soyez honnête sur vos objectifs. Soyez honnête sur la motivation que vous mettrez. Soyez honnête sur vos expériences passées. N'hésitez pas à avoir un regard critique sur ces dernières. En général, ils vont voir que vous avez travaillé sur un stage et ils vont vous dire « Ah, c'est intéressant, tu as travaillé chez un tel architecte. Dis-moi, c'était comment? Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et c'est important de montrer que vous avez un regard critique sur votre parcours et sur votre carrière, que vous savez où vous voulez aller. Même si vous ne le savez pas, il faut juste que vous montrez que vous avez une direction générale que vous essayez de suivre. Est-ce que votre but, c'est de lancer votre agence plus tard? Ou est-ce que vous voulez faire carrière dans une certaine agence? En fait, la nature de votre but en lui-même, ce n'est pas le plus important. On veut juste savoir que vous n'êtes pas là juste pour être un figurant, que vous êtes là pour faire les choses. Et soyez vous-même, n'hésitez pas à rigoler, n'hésitez pas à sourire. Il faut rester professionnel, bien sûr, mais essayez d'avoir une discussion. Regardez l'entretien comme une discussion entre vous et votre futur patron. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Moi, mes meilleurs entretiens, c'était des entretiens où j'arrivais à avoir une discussion avec mon patron. Et n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'à la fin d'un entretien, on va vous dire « Est-ce que vous avez des questions pour moi ?» Eh bien, là, c'est le moment de poser des questions sur « Alors, comment est votre culture d'entreprise ? Qu'est-ce que vous valorisez chez un employé ?» Ça peut être, je ne sais pas, au niveau de la charrette, je sais que en fonction des concours, et en fonction des deadlines qui parfois peuvent être difficiles, je sais qu'il y a des charrettes, mais quelle est votre philosophie vis-à-vis de ça? N'hésitez pas à poser ce genre de questions. Montrez que vous êtes intéressé. Montrez que vous considérez véritablement le fait de travailler. Vous n'êtes pas un légume, Vous êtes un futur architecte. Et vous voulez apprendre, vous voulez aller quelque part. Et ça, il faut que vous le montriez. C'est comme ça que vous allez réussir à vous détacher de la masse. Ouais. J'aime bien ce genre de truc. Alors, une fois que vous êtes en agence d'architecture, eh bien, vous demandez sûrement, bah, c'est quoi la différence entre une petite agence, c'est-à-dire 3 à 5 employés, voire moins, une agence de taille moyenne, c'est-à-dire que là, on est plus au niveau de 10 à 12 employés, et une grande agence, c'est quand on est à plus de 20 employés. Eh bien, j'ai pu expérimenter la plupart des tailles d'agences. Chez Jacob et McFarlane, on est plutôt dans une agence de taille moyenne. On est entre 10 et 15 employés, en fonction des stagiaires qu'on a, des arrivants et de ceux qui partent. J'ai été dans une petite agence aussi, notamment chez Plagiaria Architectes, dans l'antenne parisienne, où on était 3, c'est-à-dire moi, ma collègue et un patron. Et chez My Group Architectes, eh bien là, on était plutôt sur une grosse agence où on avait une vingtaine d'employés, plusieurs associés et une structure beaucoup plus définie. Et c'est ça la différence entre les agences de petite taille et de taille et de grande taille, en fait. C'est la structure, c'est la culture de l'entreprise. C'est le fait que vous allez intégrer une équipe ou travailler directement avec votre patron. Dans une petite agence, en général, vous aurez beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus de choses à faire. Votre rôle ne pourra pas être défini véritablement dans un contrat parce que vous allez devoir jongler. Une petite agence, c'est l'opportunité d'apprendre, c'est l'opportunité de se faire les crocs, c'est l'opportunité de tout voir de A à Z. Mais c'est aussi beaucoup plus compliqué. Excusez-moi. Beaucoup plus compliqué. Dans quel sens ? Eh bien, dans le sens de la responsabilité. Ben, très vite, vous devriez gérer des tâches que vous n'aurez jamais fait avant. C'est-à-dire que vous allez devoir monter un permis de construire. Vous allez devoir dessiner des plans. Vous allez devoir proposer des agencements. Vous allez devoir dessiner des détails. Vous allez devoir tout faire. Tout faire sous la supervision de votre patron. Mais c'est quand même... C'est quand même beaucoup. Quand j'étais chez Plage Arrière, eh bien, ce qui se passait, c'est que notre patron, Ludovic, et je te dis bonjour si jamais tu regardes cette vidéo, eh bien, il nous donnait une liste de tâches à faire. Et cette liste de tâches, ça allait de la modélisation 3D à la recherche volumétrique, des maquettes, aussi la réalisation de plans, monter une présentation PowerPoint qu'on fera à la maîtrise d'ouvrage. C'est tout ce genre de choses, vous allez vous mettre vos mains dans le cambouis. Et c'est là que vous allez le plus apprendre. Et si vous avez un bon patron, eh bien, il va s'asseoir avec vous et vous expliquer les tenants et aboutissants du métier. Parce qu'il se dit, lui, lorsqu'il vous engage, il sait que pendant les 6 premiers mois, vous ne serez pas tout à fait rentable. Et il sera là pour vous apprendre les grandes lignes, vous donner des conseils. Alors n'hésitez pas à le solliciter et n'hésitez pas à poser le plus de questions possible. Ça, c'est très important en entreprise, poser des questions. Vous n'en avez rien à faire si vous avez l'air idiot ou pas, personne ne pense ça. Un patron préfère 10 fois mieux un employé qui est actif et qui pose des questions que quelqu'un qui est juste là, stoïque et qui dit rien. Et dans les agences de taille moyenne, eh bien là, vous avez de moins en moins de responsabilités en fonction de la taille de l'agence et en fonction de votre expérience. Je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans une agence de taille moyenne, eh bien vous allez faire partie d'une équipe. Une équipe avec un chef de projet. Vous n'allez pas travailler directement avec l'associé. L'associé, il a plus un rôle de chef d'orchestre à l'intérieur d'une agence de taille moyenne. C'est-à-dire qu'il sera sur tous les projets en même temps, il va donner les lignes générales et c'est au chef de projet et ses équipes dont vous ferez partie de concrétiser la vision. C'est-à-dire que vous allez développer le projet à partir d'une idée initiale et l'associé sera là pour vous guider, pour vous dire « Ok, cette direction m'intéresse et cette direction ne m'intéresse pas. » Et en fait, je trouve que ça, c'est une position intéressante lorsqu'on commence à avoir peut-être 1 ou 2 ans d'expérience, et c'est mon cas actuellement, parce que en fait, vous avez le temps de vraiment vous concentrer et développer une expertise sur une tâche en particulier, que ce soit dans la modélisation 3D, dans la conception. Vous avez le temps Et vous pouvez observer ce qui fait qu'une personne est chef de projet ou pas. Dans mon agence, en fait, lorsque je travaille sur un concours avec un chef de projet, eh bien, je peux me rendre compte de l'expertise nécessaire pour pouvoir assumer ce rôle. C'est-à-dire la connaissance des normes, le fait de pouvoir dessiner un escalier en 2 secondes. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme de savoir ça. Et surtout, le fait de pouvoir dessiner un plan de manière extrêmement rapide. Et surtout, un plan viable qui comprend les normes dès le début. Et en parlant de normes, c'est là qu'on va trouver la différence entre des projets plutôt à petite échelle et des projets à grande échelle, et notamment avec le logement. Parce que pour moi, la chose la plus difficile à faire en tant qu'architecte, c'est du logement. Parce qu'il y a tellement de normes là-dedans, franchement, c'est incroyable à quel point c'est compliqué. Le logement aujourd'hui en France, il doit être optimisé comme pas possible. Il doit... En fait, c'est... La difficulté, c'est de devoir jongler entre des normes qui dictent la hauteur de vos fenêtres, la taille de vos fenêtres, aussi le budget, la distance entre vos escaliers et les portes des appartements, s'il y a des escaliers coupe-feu ou pas, les normes incendie, les normes PMR, personnes à mobilité réduite. Tout ça, c'est extrêmement complexe et c'est la mission de l'architecte de devoir produire un logement qui fonctionne. Et honnêtement, c'est ça, je trouve, la grande difficulté par rapport à tous les autres projets. Quand on travaille sur un concours, je ne sais pas, pour une médiathèque, pour une bibliothèque, pour un musée, eh bien là, on a beaucoup plus de liberté architecturale. Là, on peut beaucoup plus être expérimental dans notre manière de concevoir. C'est pour ça que vous voyez des musées qui sont construits avec des formes totalement incroyables, totalement libres. Alors que des logements, bah c'est pour ça que les logements sont assez moches aujourd'hui, c'est parce que les architectes sont enfermés dans des contraintes pas possibles de normes, de budget et aussi de maîtres d'ouvrage qui ne sont là que pour optimiser un maximum leur logement. Ça me rappelle que quand je travaillais chez Plage Architecte, je travaillais sur un projet de logements sociaux et je peux vous dire que à chaque réunion avec la maîtrise d'ouvrage, le projet changeait parce qu'ils avaient une équipe d'architectes chez la maîtrise d'ouvrage qui vérifiait l'intégrité de notre plan, si notre plan était rentable, était viable et respectait les normes. C'est-à-dire qu'on arrivait, on leur envoyait leur plan et on avait quelqu'un qui venait qui dessinait par-dessus, qui nous disait « Tu peux réduire de 2 mètres ton couloir. Ah, ce couloir-là, franchement, regarde si tu peux pas, je sais pas, le rendre plus droit, avoir moins de choses. Ah là, t'es sûr que ce logement, il marche? J'aurais aimé qu'il soit double orienté et pas mono orienté. » Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que ça illustre en fait la relation entre les différents corps de métier. Vous savez, si vous avez vu passer des mèmes sur l'architecture, souvent vous voyez que architecte et ingénieur se détestent ou architecte et maîtrise d'ouvrage se détestent. Et j'ai envie de dire que c'est totalement faux. Alors, effectivement, ce n'est pas la meilleure des relations possibles, mais ça dépend à 400% des individus. En fait, vous pouvez tomber sur une maîtrise d'ouvrage qui a de l'expérience, qui a déjà travaillé avec des architectes, qui valorise le métier de l'architecte et la valeur ajoutée que ce dernier pourra apporter. Et vous en avez d'autres qui n'y connaissent rien, qui ne savent pas qu'est-ce qu'on fait en tant qu'architecte. Et ça, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'architecte? Petite parenthèse, et ça peut être un choc pour vous, mais on a un métier qui est extrêmement sédentaire. Aujourd'hui, le métier d'architecte, c'est tu arrives en agence, tu te mets derrière ton ordinateur et tu dessines et modélises des plans. La conception, elle peut être très rapide. Et en fait, au fur et à mesure de votre expérience, du fait que vous gagnez d'expérience, elle sera de plus en plus rapide et de plus en plus efficace. Ce qui fait que la majorité du temps, vous êtes là à refaire un projet. Un projet d'architecture n'est jamais fini. Il est juste abandonné. Et j'adore cette phrase. Et en fait, il y a différentes phases dans un projet d'architecture qu'on peut résumer grossièrement à la phase d'esquisse, la PS, la PD, la phase pro et la phase d'exécution, qui est la phase où on va construire et suivre le chantier. Et être architecte, en tout cas en région parisienne, Eh bien, déjà, vous n'allez pas faire énormément de chantiers, surtout si vous n'êtes pas dans une agence qui fait de la rénovation, parce que vos chantiers sont gérés par des entreprises extérieures et c'est triste. Moi, j'avoue que ça me perturbe grandement et j'aimerais faire beaucoup plus de chantiers que ça. Où en étais-je ? C'est une très bonne question. Où en étais-je ? Oui, donc, vous allez travailler toute la journée derrière un ordinateur et être extrêmement statique. Enfin, ouais. C'est peut-être un choc pour vous, mais c'est pour ça que c'est super important de vous renseigner sur la culture de l'agence. Et c'est pour ça que c'est potentiellement meilleur de travailler dans des agences à petites échelles. Parce que si vous êtes à petite échelle, eh bien, vous faites tout de A à Z. Et donc, vous ferez du chantier, vous vous déplacez pour voir la maîtrise d'ouvrage, vous bougez, vous ne restez pas simplement derrière un ordinateur. Et l'une des choses les plus importantes en tant qu'architecte, c'est la communication avec les différents corps de métier. Et quand je dis communication avec les différents corps de métier, c'est comment vous communiquez avec un ingénieur, comment communiquer avec la maîtrise d'ouvrage, comment communiquer avec un promoteur, comment communiquer avec un artisan, tout ça. Bien, vous savez quoi ? Je vais recommander le livre d'un ami. Et Harrison, si tu regardes ce podcast, eh bien, je te salue. Mais vous connaissez peut-être Harrison Delcroix de Quotidien d'architecture. Et je trouve que je ne saurais vous conseiller plus son bouquin. Vous prendrez bien un peu d'architecture parce que là-dedans, il vous explique en fait son expérience avec les différents corps de métier en lançant son agence. Et franchement, je vais vous dire un truc. Les mauvaises relations entre l'architecte et les différents corps de métier sont 100% la faute de l'architecte. Ouais. Vous n'allez pas être d'accord avec ça, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à m'expliquer votre point de vue en commentaire, parce que je serais très intéressé de l'entendre. Et pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que dans un projet d'architecture, l'architecte est le chef d'orchestre. Il coordonne. C'est lui qui donne la vision. C'est lui qui donne le « là ». Et en fait, c'est là qu'on va parler de la compétence la plus importante d'un architecte. Un architecte se doit de maîtriser la communication. Et la communication, il faut savoir être clair. Parce que les gens ne vont pas comprendre votre vision. Comment est-ce qu'ils le pourraient ? Ils ne vivent pas dans votre tête. En agence, on se rend compte en fait, qu'on travaille avec des gens qui ne comprennent pas vraiment ce qu'est l'architecture. Et je ne dis pas ça de manière pédantique, je dis ça juste pour que vous compreniez que vous ne parlez plus à des architectes comme vous le faisiez en école d'architecture. Les gens à qui vous allez parler, à part les ingénieurs, ne comprennent pas vraiment ce qu'est un plan de détail, une coupe, une élévation ou une axonométrie. Il faut trouver des moyens de pouvoir communiquer clairement votre vision. Et ça me rappelle une anecdote qui montre vraiment ça chez MFR Architecte. Entre deux réunions qui sont passées de manière drastiquement différente. La première, on est venu qu'avec des images 3D. Des images 3D tout droit sorties de SketchUp, eh bien, je peux vous dire que la réunion a été une catastrophe. Les promoteurs se sont tout de suite figés, ils ont vu le projet, ils pensaient que c'était fini, ils étaient en mode « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi on a un gros volume blanc comme ça, avec des arbres ? C'est moche, qu'est-ce que vous nous faites ? C'est pas possible !» Et on a perdu tellement de temps à essayer de leur expliquer que non, c'était juste une maquette de volumétrie, que c'était pas final. Bref. Une erreur de communication. Et qu'est-ce qu'on a fait à la prochaine réunion pour essayer de résoudre ça ? Eh bien, c'est très simple, on a fait des maquettes. Et des maquettes de volume. Et là, d'un coup, la réaction des promoteurs a été totalement différente. C'est-à-dire que on les a vus sourire. On les a vus rentrer dans la discussion avec nous. On les a vus essayer de manipuler la maquette. Et rien que ça, c'est une force. Parce qu'en fait, on est passé d'une relation d'opposition, de « Oh, mais qu'est-ce qu'il va encore me faire cet archi-là, je comprends rien à son truc », à « Ah purée, là, ça c'est pas mal, ah ça, oh, qu'est-ce que je peux faire là, ça a l'air pas mal du tout ». Et on engage la discussion. Et ça, c'est super important, engager la discussion. On n'est pas dans la confrontation. Ça sert à rien de dire « Oh purée, l'ingénieur, il me casse, Il est tellement énervant, il ne fait pas ce que je lui demande. Oh, c'est pas ça. Le meilleur moyen, c'est d'engager la discussion avec les autres, de leur demander leur avis, de les faire participer dans la conception. Parce que l'architecture n'est pas un sport de combat, c'est un sport collectif. Que vous le vouliez ou non, le projet sur lequel vous travaillez, ce n'est pas votre projet, c'est le projet de votre client. C'est aussi le projet de l'ingénieur, le projet du maçon, le projet des artisans. Vous êtes là pour coordonner et concrétiser cette vision-là. Et c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises du livre d'Harrison de chez Quotidien d'architecture. D'ailleurs, que je vous le conseille, vous prendrez bien un peu d'architecture, le lien sera dans la description. Et je ne vous fais pas de lien affilié parce que je considère que ça ne sert pas à grand-chose de faire ça. Et il expliquait très clairement, et il y a un passage dans son livre que j'aime beaucoup, où il y avait un problème avec un architecte des bâtiments de France qui ne lui avait pas validé un de ses projets. Et au lieu de l'appeler tout énervé, lui dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien !» et tout ça, il l'appelait au téléphone, il lui dit « Bonjour mon cher monsieur, je comprends que... en fait, je voudrais comprendre pourquoi vous avez bloqué mon projet. Qu'est-ce qui dérangeait là-dedans ?» Et en fait, l'architecte des bâtiments de France, il lui a dit « Ah bah, écoute, je l'ai bloqué parce qu'on n'a pas le droit de... On n'a pas le droit de faire ça. » Enfin, de... Je ne me rappelle plus ce que c'était exactement. Je pense que c'était au sujet d'une terrasse. On n'a pas le droit de faire une terrasse qui donne vue directement sur l'église. Et là, en fait, du tac au tac, Harrison lui a dit « Ah bah tiens, ok, si on n'a pas le droit de faire ça. » Et il a proposé quelque chose d'autre. Il a essayé de trouver un compromis. Et ça, c'est super important, le compromis. Le compromis, c'est le nerf de guerre de votre métier d'architecte. C'est le nerf de guerre de la pratique en agence. Et je vais peut-être finir sur ça, parce que aussi dans la communication, c'est aussi la communication à l'intérieur de l'agence. C'est, vous devez être capable de dire, d'expliquer ce que vous êtes en train de faire à vos patrons très très vite. C'est-à-dire quand ils viennent vous voir et dire « Ok, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Qu'est-ce que tu as fait là ?» Vous devez être capable de dire « Ok, très bien, j'ai modélisé ci, j'ai fini ça, j'ai appelé telle personne, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je vais faire. » Mais c'est aussi super important, parce que si vous n'êtes pas satisfait du travail que vous faites en ce moment, c'est-à-dire que vous vouliez peut-être faire du chantier, eh bien c'est important de le communiquer à votre chef de projet et à votre patron. C'est aussi important de demander des entretiens avec eux, de leur dire « Ok, écoutez, voilà comment je me sens, j'ai l'impression que je fais du bon travail, mais que je pourrais m'améliorer là, là et là. » Soyez très critique sur votre parcours et montrez que vous voulez vous améliorer. Et surtout, imposez-vous. Donnez des idées, soyez force de proposition. Franchement, ne restez pas là à vous dire « Ah non, je ne peux pas donner d'idées parce que je n'ai pas tant d'expérience que ça. » Justement, c'est le fait que vous n'ayez pas beaucoup d'expérience qui fait que vos idées sont importantes et intéressantes. Parce que vous allez explorer une voie auquel on ne pourra peut-être pas forcément penser. Vous allez peut-être aussi nous aider à, en donnant des idées qui peuvent être nulles, et bien on pourra éliminer les autres possibilités et donner plus de clarté à l'idée qu'on explore actuellement. Moi, je fais ça tout le temps avec chez Jacob et McFarlane, sachant que les deux associés, Dominique Jacob et Brendan McFarlane, sont une grande force de proposition et ont leur patte architecturale à eux. La plupart des idées que je propose ne sont pas prises en compte. Et c'est une bonne chose parce que je donne et je donne et je donne et je donne des idées. Et à force de donner des idées, forcément, sur 50 idées, il y en a peut-être 3 ou 4 qui prennent, 3 ou 4 qui sont considérées, 3 ou 4 qui sont intégrées dans le projet. Le reste, ça permet de donner à mes patrons beaucoup plus de clarté. Ils savent où ils vont, ils savent que leur idée est la bonne pour eux et ils savent où ils veulent aller. Donc si vous devez retenir une seule chose de ce podcast, c'est celle-ci. Soyez clair, respectez le temps des autres, montrez que vous savez où vous allez, montrez la valeur que vous apportez à l'entreprise et sachez communiquer. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que les gens doivent comprendre? Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent de cet échange-là? J'espère que vous aurez appris quelque chose. À la prochaine pour un autre épisode de Parlons d'architecture.